Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Il y a un gâteau qui s'appelle Estella. Mais qu'est-ce que c'est bon?
Une alliance de parfums inattendus dont Pierre Hermé s'est fait une spécialité.
Avec un sablé au blé noir.
Délicieux.
Un praliné au pignon de cèdre. Une gelée d'herbe avec menthe, sauge, livèche, coriandre.
Qu'est-ce que tu attends? Coupe ton gâteau.
Et puis une crème à l'infusion de bourgeons et épines de pin.
C'est du dessert ça, gâteau! J'ai dit manger!
Lorsque je goûte, on me pose une seule question, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est très bon?
Oh, c'est délicieux,
n'est-ce pas?
J'en reprendrai bien un peu.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Pierre Hermé, c'est une enseigne de haute pâtisserie qui aligne une soixantaine de points de vente dans une douzaine de pays. Pierre Hermé, c'est évidemment l'Ispahan, les fétiches, la résurrection du macaron et bien d'autres innovations qui marquent déjà l'histoire de la pâtisserie. Pierre Hermé, c'est encore une statue en cire au musée Grévin depuis 2015. Mais Pierre Hermé, c'est aussi un homme en chair et en os, avec sa trajectoire hors norme, ses succès, sa force créatrice, ses souvenirs et ses secrets, et nous avons l'immense plaisir de l'accueillir pour la première fois sur le plateau dont on va déguster. Bonjour Pierre Hermé.
Bonjour François-Régis, bonjour Elvira, bonjour Antoine.
Bonjour Pierre.
On est ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Le 6 octobre prochain paraît en librairie Toutes les saveurs de la vie aux éditions Buchet-Chastel, un livre événement où vous vous confiez comme jamais vos parents boulangers pâtissiers à Colmar, vos débuts dans le métier chez Gaston Lenôtre à l'âge de 14 ans, votre aventure entrepreneuriale hors normes, votre approche visionnaire de la pâtisserie, vos découvertes culinaires, vos amours, votre poids. Bref, ce sont un peu vos mémoires, même si votre carrière, bon, j'espère en tout cas, est loin d'être terminée. Des mémoires écrites en collaboration avec votre amie, la journaliste Catherine Roiguin.
Oui, j'ai eu ce plaisir de travailler et de faire ce livre avec Catherine et on s'est régalé.
Ben, en tout cas, ça se sent à sa lecture. On a tous eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, eh bien, vous les avez cités, Pierre. Notre chroniqueuse historique, Elvira Masson, et l'un de nos chroniqueurs vents, Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour à tous et toutes.
Elvira.
Je vous parle d'un livre que Pierre connaît bien, qui a été publié il y a plus de 30 ans et qui est toujours d'avant-garde.
Et que j'ai toujours, moi aussi, personnellement au chaud dans ma bibliothèque. Vous nous en parlez tout à l'heure. Antoine?
Eh bien, comme nous avons la chance d'accueillir non seulement un bec sucré célèbre, mais aussi un très grand amateur de vin, eh bien, on va essayer de jouer à l'aveugle et avec ses souvenirs aussi.
Pour retrouver tous les contenus de notre émission, podcast, chronique, mais même quelques recettes que nous a confiées Pierre Hermé, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
J'ai 2 ans, 3 peut-être. C'est l'été. Dans la forêt, les rayons du soleil se faufilent entre hêtres et sapins. Sur le chemin, je trottine aux côtés de ma nourrice qui me tient par la main. Ensemble, nous partons cueillir les myrtilles sauvages qui abondent sur les terres fraîches et acides des Vosges. La profondeur de ce petit fruit noir est à jamais gravée au fond de moi. On ne la retrouve pas du tout dans les myrtilles cultivées qui n'ont aucun relief. Lorsque j'y pense, ce goût si subtil me revient immédiatement en bouche, mais je n'ai jamais travaillé la myrtille dans mes créations, j'aurais trop peur d'être déçu. Cette saveur est intouchable, elle doit rester. Dans mes souvenirs, c'est les premières lignes de votre livre, Pierre Hermé, Toutes les saveurs de la vie, le recueil de confidences que vous publiez dans quelques jours chez Buchet-Chastel. Alors on l'a compris, dans les tréfonds de votre mémoire, il y a donc cette saveur virginale, cette saveur première, cette saveur sauvage, intense, la myrtille des Vosges. Comment vous définiriez son goût?
Il y a un peu d'amertume, il y a un peu d'acidité et il y a un parfum qui pour moi est indescriptible, que je n'ai jamais retrouvé. À chaque fois que je goûte des myrtilles cultivées, ben je m'y retrouve pas. C'est agréable, c'est sucré, machin. Mais non, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que j'ai en tête.
Je suis étonné d'ailleurs, même très intrigué, que vous n'ayez jamais cherché à à travailler, à restituer cette saveur très particulière de la myrtille sauvage, parce qu'après tout, vous pourriez la travailler, on peut la ramasser. Hein,
dans oui, les, on peut en trouver, bien sûr.
Dans les massifs alpins ou dans les Vosges, d'autant que l'une des premières choses que vous avez réalisées en arrivant dans la maison Le Nôtre, c'est la tarte aux myrtilles, dont vous dites qu'elle avait un goût de beurre incroyable.
Oui, alors là, c'était une tarte aux myrtilles avec un fond de pâte sucrée et une crème d'amande. Et le fond de pâte sucrée et la crème d'amande, ça m'avait impressionné comment ça avait le goût de beurre. Pourquoi ? Parce que mon père, il faisait de la pâtisserie, de la bonne pâtisserie, mais à l'époque, il n'utilisait pas de beurre, sauf pour le kouglof. Donc,
c'était de la margarine, racontez-vous.
C'était la margarine, ouais. Oui. Enfin, c'était une autre époque. Donc, quand je suis arrivé chez Le Nôtre, j'ai découvert le goût du beurre dans la pâtisserie, et c'était une vraie révélation, et notamment ces tartes myrtilles. Les myrtilles, c'était des myrtilles qui venaient de Pologne, de la marque Krakus, je me rappelle encore comme si c'était hier. Ben, c'était pas mauvais, mais ce qui était surtout très très bon, c'était le fond de pâte qu'on faisait chez Le Nôtre.
Donc, si j'ai bien compris, Pierre Hermé, vous avez sanctuarisé ce goût de la myrtille des Vosges, et vous n'y toucherez pas jusqu'à la fin de votre carrière ?
Non, ça c'est pas... Il n'y a rien que je m'interdis, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas voulu aller sur ce territoire. Si je trouve quelqu'un qui me fournit, donc là, il y a un message, des formidables myrtilles durant la période de cueillette, alors là, ça me plaira beaucoup de faire une tarte aux myrtilles.
Appel à nos auditeurs vosgiens et savoyards.
Ouais. La myrtille, Pierre Hermé, elle a aussi, vous le racontez dans votre livre, le goût un peu doux-amer d'une enfance alsacienne où vous avez été, on l'a compris, placée en nourrice de l'âge de 3 mois à l'âge de 3 ans, vos parents sont boulangers-pâtissiers, votre mère était trop occupée par la boulangerie, l'affaire familiale pour s'occuper de son bébé, en quelque sorte. Ce goût-là, effectivement, un petit relent d'amertume ?
Non, c'est juste, je pense que c'est surtout ma mère qui a été affectée, parce que c'est quelque chose qui lui avait été imposé un peu par sa belle-mère. Donc, ma mère a été beaucoup affectée de ça, et c'est normal, on comprend. Moi, certainement inconsciemment, mais je mesure pas.
On rappelle que vos parents sont nés tous les deux en 1930. Ils tenaient donc l'affaire créée par vos arrière-arrière-arrière-grands-parents paternels. C'était en périphérie de Colmar, hein, c'est bien ça, dans le quartier Jean Massé.
Voilà.
Vous avez passé pas mal de temps.
C'est un quartier ouvrier de Colmar, ouvrier et maraîcher. Donc ce qui fait que mes parents ouvraient la boulangerie à 5 heures pour que les ouvriers qui allaient à l'usine puissent venir acheter du pain et des viennoiseries. Alors, pour passer du temps avec mon père, parce que mon père était tout le temps dans son atelier, ben, du coup, j'étais avec lui et j'ai passé beaucoup de temps dans son atelier. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire ce métier, parce que ben, je le voyais, il était passionné, il était heureux, il travaillait même parfois le dimanche. Enfin, c'était un vrai passionné.
Et il vous confiait des tâches de plus en plus nobles, de plus en plus importantes à ses côtés.
Oui. J'ai commencé par nettoyer les plaques, faire la plonge, puis petit à petit j'ai eu le droit de faire des gâteaux. Avant d'aller en apprentissage, j'avais le droit de faire des vacherins, des décorer des gâteaux, enfin de mettre des fruits sur des gâteaux, en fait de faire de la pâtisserie. Et donc je croyais que je savais faire la pâtisserie.
Le souvenir de votre père Georges a un goût, une saveur. Vous nous avez fait un sacré cadeau, c'est de nous apporter une tarte qui évoque pour le coup ses souvenirs d'enfance dans son atelier.
Quand on me demande quel est mon gâteau préféré, c'est la tarte au quetsch. Parce que j'ai un souvenir de cette tarte qui était juste toute simple, avec une pâte brisée, un peu de brisure de biscuit. Sur ces brisures de biscuit, mon père disposait les quetsch, pas de flan, rien, juste un peu de quetsch et de sucre à la cannelle. Alors, cette tarte au quetsch, bien sûr, j'en fais... pour la faire,
la preuve, elle est sur notre plateau.
J'en fais pendant un mois à peu près, mais pour la faire, je fais venir des quetschs d'Alsace, parce que pour moi, il n'y a de quetschs que d'Alsace. Et c'est mon amie Christine Ferber qui se charge de nous envoyer des quetschs d'Alsace qu'elle va chercher elle-même avec sa petite camionnette. C'est un trafic de quetschs entre l'Alsace et Paris.
Sachant que vous évoquez effectivement dans votre livre celle que vous considérez comme votre sœur, hein, ni plus ni moins, Christine Ferber, un mot
sur cette sœur de cœur,
immense créatrice de confiture en Alsace.
Alors, Christine, on se connaît depuis l'adolescence. On n'a pas grandi ensemble, mais sa boulangerie, épicerie, pâtisserie est dans le village natal de ma mère, à Nidamorschwihr. Et je fais partie des gens qui l'ont encouragée à se lancer dans les confitures, un peu contre le gré de son papa, qui disait que on n'allait pas gagner d'argent avec la confiture et que c'était un travail, beaucoup de travail. Et elle a persévéré. Et pour moi, c'est toujours elle depuis longtemps qui fait les meilleures confitures que je connaisse.
Succès national et même international, on peut le dire. Quelques stars à une époque où on critiquait pas les bilans carbone des transports. Il y a certaines stars qui se sont posées en hélico pour aller acheter leurs confitures. C'est
oui.
ça hein.
Et personne ne l'a reconnu, c'était Brad Pitt. Et personne n'a reconnu Brad Pitt dans la boulangerie.
Petit commentaire d'Elvira Masson sur cette fameuse tarte au quetsch.
Elle ressemble à celle
en train de circuler.
De votre
mais non.
papa,
non mais non.
Rien à voir.
Ça ne sera jamais comme ça.
Oh là là.
Vous avez essayé pour autant de vous en approcher.
Oui, oui, j'ai essayé de m'en approcher, mais elle sera jamais aussi bonne.
Alors, allez-y, petit commentaire de dégustation de Pierre Hermé qui goûte sa propre production.
Satisfait ?
Il manque un peu de cannelle.
Petit message envoyé à l'atelier de Pierre Hermé. Il faut qu'il y ait effectivement cette petite touche un peu épicée et suave de la cannelle.
Ouais. Peut-être la différence que je fais avec mon père il prenait une cannelle tout à fait normale. Nous, on utilise la cannelle de Ceylan, qui pour moi est plus subtile, plus raffinée.
Très bien, on va continuer à évoquer votre aventure, et notamment vos débuts auprès d'un grand monsieur de la pâtisserie, votre aventure également entrepreneuriale, derrière la console, Laurent Thomas avec Gilles Gaillard à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation, l'organisation, tous les contenus internet de l'émission. Qu'y a-t-il dans le cerveau de Pierre Hermé pour enfanter des créations aussi magistrales que Isparan, Estella, on va en parler. Dans un instant, on entre dans les coulisses de votre création, Pierre, mais juste avant, Wet Leg, un duo de rockeuses britanniques, avec le titre Your Mum, choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter. Le grand pâtissier Pierre Hermé est l'invité dont va déguster à quelques jours de la parution de Toutes les saveurs de la vie chez Buchet-Chastel, un livre événement qui est un livre de confidence où vous vous mettez à nu comme jamais. On avance un peu dans votre carrière, cher Pierre, et on en vient à cette date qui est tatouée au fer rouge dans votre mémoire. C'est le 31 août 1976. Racontez-nous.
Ben, à ce moment-là, j'ai décidé de venir à Paris pour faire mon apprentissage. Enfin, mes parents m'y ont encouragé. Et c'est mon arrivée à Paris, c'est la date de mon arrivée à Paris et mes premiers pas dans la maison Lenôtre le lendemain.
Votre père était tombé sur une petite annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace. La maison Lenôtre cherche des apprentis et votre mère a tenté de vous dissuader de cette aventure.
Elle a timidement essayé de me dissuader de faire le métier de pâtissier. D'apprendre le métier de pâtissier, elle me disait toujours « tu ne trouveras pas de femme ». Parce que elle avait un vécu assez douloureux, parce qu'elle se levait à 4 heures pour ouvrir la boulangerie à 5 heures. Enfin, moi, c'était compliqué pour elle. Donc, à travers cette recommandation, elle voulait parler d'elle.
En arrivant à Paris, vous logez dans une toute petite chambre de bonne, au 8e étage sans ascenseur. Hein. On est au 24 rue Félicien-David. Vous vivez dans une chambre de bonne en colocation avec un jeune autre apprenti qui fume comme un pompier d'ailleurs.
Voilà.
Vous vous entraînez, paraît-il, le soir à écrire...
Au cornet.
À écrire au cornet, c'est ça ?
Joyeux anniversaire, bonne fête maman, enfin tout ce qu'on apprend quand on veut être pâtissier.
Et comme le chocolat est trop cher ou il faut pas le gaspiller ?
Non, on nous disait que c'était bien de s'entraîner avec le dentifrice, donc il n'y avait pas à la chauffer.
Et vous vous êtes frotté évidemment à ce géant de la pâtisserie du XXe siècle, qui est Gaston Lenôtre, que vous appelez toujours aujourd'hui d'ailleurs Monsieur Lenôtre.
Ah oui, bien sûr, pour moi c'était Monsieur Lenôtre. Et je me rappelle toujours des premières rencontres où on m'avait proposé d'aller faire des crêpes au Pré-Catelan. Et tout d'un coup, je vais arriver à une grande toque, une immense toque. Et un monsieur, il dit, ah là, petit, je vois que tu... Il regarde, il dit, petit, je vois que tu sais pas faire les crêpes. Moi, je me suis dit, ah là, c'est mauvais, là, je suis viré. Donc, il m'a gentiment poussé, il m'a fait voir comment faire des crêpes, parce que moi, je savais pas faire des crêpes sur une crêpière plate. Donc, j'étais terrorisé, parce que je me suis dit, mais le lendemain, je vais être obligé de repartir à Paris, quoi, à Colmar, pardon. Je vais avoir le billet retour pour Colmar, donc et il s'est rien passé. Et finalement, j'ai passé 6 ans dans cette formidable maison où j'ai appris tout ce que je sais faire.
Vous êtes ému.
Oui, oui, bien sûr.
Et quelques années plus tard.
Toujours, oui, toujours.
Quand il croise vos parents, il a une phrase très touchante.
Si j'avais un fils comme Pierre, je serais le plus heureux des hommes.
Eh oui, il a dit ça à ma mère. Donc c'est vrai que c'était énorme. Ouais.
Gaston Lenôtre a une place très particulière dans votre cœur. Vous lui avez dédié votre titre de meilleur pâtissier du monde que vous avez reçu en 2016 par le classement britannique des World 50 Best Restaurants. Vous lui avez également consacré un gâteau baptisé Hommage.
Oui, c'est un souvenir. Quand je suis arrivé chez Lenôtre, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, notamment cette glace marron poire qui était extraordinaire. Le goût de poire, le goût de marron était bien mis en valeur, c'était terrible. Et donc j'ai essayé de refaire cette glace, j'y ai mis du temps et j'ai fait la glace, j'ai fait le gâteau et j'ai voulu faire le macaron et je n'y suis pas parvenu. Et du coup, j'ai fait un macaron à la poire et un macaron au marron. Parce que les deux ensemble, ben, ça donnait pas grand-chose dans un macaron. Comme quoi, il faut pas s'entêter. Et il y a un cake, il y a un croissant aussi que j'ai fait, qui s'appelle Hommage. Et en fait, pourquoi ça me touche comme ça? Parce que c'est encore, aujourd'hui, le savoir-faire sur lequel je m'appuie. Ce que j'ai appris chez Lenôtre reste encore le fondement de ma culture du métier. Et très souvent, quand je travaille sur des créations, je reviens sur des moments de cet apprentissage pour me remémorer comment on faisait. Le plus bel exemple, c'est il y a 3 ans ou 4 ans, on voulait faire des brioches feuilletées pour les galettes. On a essayé plein de recettes. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais chez Lenôtre, on faisait une brioche feuilletée. Donc, on a fait la recette Lenôtre, on les a comparées, et effectivement, c'était la meilleure. Donc, on est reparti de cette recette de l'époque Lenôtre pour faire notre brioche feuilletée.
Gaston Lenôtre, c'est votre mentor, votre référence, on l'a compris, mais c'est aussi un modèle dont vous vous êtes forcément éloigné, puisqu'ensuite, vous êtes devenu un véritable auteur, inventeur de ce que l'on pourrait appeler la haute pâtisserie. Vous êtes éloigné, notamment, évidemment, de sa vision, de sa conception du sucre. Vous expliquez dans le livre qu'il y a quand même une nette différence entre la crème pâtissière de Gaston Lenôtre et la vôtre aujourd'hui. Racontez-nous.
Alors, à l'époque, on mettait, pour 1 litre de lait, on mettait 300 grammes de sucre. Aujourd'hui, on est à la moitié, à peu près, donc dans une crème pâtissière. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, J'ai essayé aussi de raisonner par rapport à mon propre goût, mes propres envies. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour me détacher de cet apprentissage qui était très, très présent et pour devenir moi-même. C'est-à-dire d'être capable d'imaginer des choses par moi-même. Alors, j'ai eu la chance de faire un service militaire où j'ai pu commencer à créer des gâteaux. À l'époque, j'étais pâtissier du ministre de la Défense.
Donc, Charles Hernu.
Charles Hernu. J'ai eu un cobaye donc, qui était ministre de la Défense et qui a goûté mes premières créations.
Et un cobaye sacrément gourmand. Hein.
Ah, il adorait manger. Il était, c'était pas rare qu'il passe la tête dans la pâtisserie en allant de son appartement au bureau disant qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui.
Sa carrière était passée par Villeurbanne. Bon, moi je suis lyonnais, hein, vous le savez, et vous lui avez fait des bugnes.
Et oui, quand je voulais faire plaisir... Et parce que notre métier, c'est avant tout de faire plaisir. Je savais qu'il aimait les bugnes, et donc je faisais les bugnes. Ça a été une bonne école aussi de faire à manger pour quelqu'un. Ça apprend aussi à rester assez humble, parce que bah, quand on fait à manger pour quelqu'un, on essaye de lui faire plaisir. Et ça, c'est resté marqué dans mon esprit, cette idée de faire plaisir.
Vous avez commencé à devenir vous-même, même si on va évidemment accélérer sur certaines étapes, car vous avez une carrière extrêmement remplie, mais vous devenez à peu près vous-même à l'âge de 25 ans, en 1985, lorsque vous devenez le chef pâtissier d'une grande maison parisienne, Fauchon. Vous êtes quand même à la tête d'une brigade de 32 pâtissiers, dont certains ont 25 ans de maison. Votre mission, faire éclore la nouvelle identité pâtissière de la maison. Et là, on a appris un truc qui nous a sidéré avec Elvira. Vous passez souvent, on se connaît un peu dans la vie évidemment, on se connaît même bien, vous êtes quelqu'un de calme, d'apparemment serein, vous avez même un tempérament qu'on pourrait qualifier de moine bouddhiste, et là on apprend que vous étiez insupportable, c'est vous qui le dites.
Oui, oui, j'étais... en fait, sous cette apparente tranquillité, je suis impatient, et donc... en arrivant chez Fauchon, je m'étais fixé une ligne éditoriale, je m'étais fixé des objectifs et je voulais y arriver. Et j'étais impatient d'y arriver. Et ben, il y a eu quelques obstacles et que je me suis efforcé d'écarter. Et puis ben, après, j'ai eu la chance d'avoir avec moi des gens formidables qui ont travaillé avec moi, comme second, comme chef pâtissier, les Jean-Michel Perruchon, Frédéric Beau, Christophe Michalak, Christophe Felder.
Ils sont tous devenus de très grands pâtissiers, c'est incroyable.
Thierry Bridon, j'en oublie. Et puis, il y a aussi là-dedans des gens qui ont travaillé avec moi chez Fauchon et qui ont travaillé après dans la maison Pierre Hermé. Et il en reste un d'ailleurs encore qui a travaillé avec moi chez Fauchon, qui s'appelle Michael Marsollier, qui est toujours à mes côtés. Et qui fait partie de la mémoire de la maison Pierre Hermé.
Après Fauchon, il y a eu évidemment la durée. Là, vous avez véritablement relancé la carrière du macaron parisien. On va pas trop insister sur le macaron, même si on sait que vous en êtes vraiment le promoteur et que ça a été un succès absolument mondial, notamment au Japon. On a consacré au macaron, il y a quelques mois, une émission entière où on vous a d'ailleurs beaucoup rendu hommage. On va parler dans un instant, évidemment, de quelques-unes des pâtisserie phare, star, que vous avez enfantée. Mais juste avant, la parole à Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai observé un jour quelqu'un qui m'espionnait, le matin, quand je faisais mes achats au marché Fortville à Cannes. Et puis, l'observation s'est faite rapprochée, encombrante presque. Une jeune femme qui me suivait voulait me parler, mais pas seulement. Imaginez un peu, elle voulait venir faire la cuisine dans ma cuisine. Harcèlement culinaire en clair. J'ai résisté longtemps quand même, mais Frédéric E. Grasser est heureusement une jusque-boutiste dans la cuisine comme dans la vie. Est-ce que vous avez une petite idée de qui pouvait s'exprimer ainsi en 1994?
C'est Alain Ducasse.
Alain Ducasse, bravo. Qui se remémore le temps où il était le chef du Juana à Jean-Lépin et où une certaine Frédéric Grasser lui courait après. Et il poursuit ainsi. Frédéric, c'est tout dans la cuisine. Au début, je n'y croyais pas. Et puis j'ai goûté. Et puis j'ai mangé. Et puis j'ai tout avalé. Et lorsque je travaillais trop, lorsque je n'avais pas le temps d'avoir faim, il suffisait qu'elle me glisse sous le nez une de ses recettes, récupérée dans je ne sais quel pays ni à quelle époque, pour que je m'arrête et que je dévore. C'est ainsi qu'elle est devenue la cuisinière du cuisinier, sa cuisinière personnelle, ce qui a ensuite donné lieu à ce livre, La cuisinière du cuisinier Alain Ducasse, publié pour la première fois en 1994. Il a été réédité depuis par Ducasse Édition en 2011, avec cette préface donc signée Alain Ducasse, dont je vous ai lu un extrait. Alors ce livre, je l'ai depuis des années, mais j'avais un peu oublié à quel point il était génial et avant-gardiste du temps de sa publication. Il a fallu, Pierre, que vous m'y fassiez penser en lui rendant hommage dans votre livre. Avec Frédéric, vous partagez de nombreux centres d'intérêt, la cuisine, bien sûr, la pâtisserie, l'art et le design, dont on sait à quel point ils ont été importants dans votre œuvre, dans votre carrière. Votre relation est devenue amoureuse à la faveur d'un dessert qu'elle avait préparé pour vous. Une glace vanille servie avec des cannelés réalisés selon la recette de Jean-Marie Amat. Jean-Marie Amat était un grand chef qui officiait notamment à Bouliac, au Saint-James.
Absolument.
Je crois que ces cannelés furent la pierre fondatrice de notre relation amoureuse, qui pendant 13 ans allait tourner essentiellement autour de notre passion pour la culture culinaire et pour les produits, écrivez-vous. Moyennant quoi, nous allions prendre 40 kilos chacun. La recette de ces fameux canets se trouve évidemment dans la cuisinière du cuisinier, dans lequel on trouve vraiment de tout. Car Frédéric E. Grasser Hermé, on a ensuite ajouté donc Hermé à son nom, dite Feg, c'est son nom de code dans le milieu, publicitaire à l'origine, devenue agitatrice, autrice et promotrice de l'ouverture d'esprit culinaire, était et est toujours curieuse de tout. Obsessionnelle du bon produit et fureteuse invétérée, son livre saute du coq à l'âne, d'une salade d'endive à une ratatouille dite du jardinier, en passant par sa pomme de terre ragougnasse. Elle aime les États-Unis, le egg sandwich ou la tuna salad sandwich. Elle aime la cuisine du quotidien et la cuisine de rue, le tadig iranien, le tagine d'agneau aux abricots, tiens tiens, une recette que Pierre vous fait tout le temps, je crois.
À laquelle vous faites allusion dans ce livre, effectivement, ouais. Recette incroyable.
Les calamars à la mode de Pantelleria, et le petit pana suédois. Je ne sais pas qui connaît le petit pana en France.
Eh bien, Frédéric et moi. C'est ça.
Une cuisine au bord du ravin, qualifie Alain Ducasse. On voyage, on découvre et on sourit aussi. C'est un peu dada et un peu des proches. Elle adore les jeux de mots à l'ancienne, du genre « je te présente mes meilleurs veaux ». Et puis les textes qui introduisent chaque recette sont des bijoux. Ce livre qui n'a pas pris une ride est plus qu'un livre de recettes, c'est d'écriture culinaire, un genre qui est beaucoup plus pratiqué dans les pays anglo-saxons qu'en France, et qui consiste à mêler des recettes et des récits, la cuisine et la vie. Et c'est aussi exactement ce que vous avez fait, Pierre, avec votre livre.
Bel hommage à Frédéric Ernestine Grasser-Hermé, qui aime bien se proclamer en rigolant penseur en nourriture. Mais il est vrai que c'est une farfouilleuse incroyable, une tête chercheuse, particulièrement curieuse, qui a écrit des livres qui font date.
Et vraiment, il faut se plonger dans celui-ci, qui est un bijou.
Et on est un peu de parti pris, parce que c'est notre jeune, entre guillemets, c'est notre jeune chroniqueuse dans notre émission Très Très Bon sur Paris Première. Je crois que vous avez d'ailleurs tourné récemment ensemble.
On a tourné sur une recette de mousse au chocolat inratable et très très bonne.
C'est ça. Elle vous a ouvert l'esprit en quelque sorte, même si vous aviez déjà évidemment cette curiosité
insatiable.
En fait,
elle m'a fait rentrer aussi dans l'univers de la cuisine que je connaissais, mais moins bien que Frédéric. Et donc c'est vrai que cet apport des savoir-faire de la cuisine m'a ouvert l'esprit sur des produits, des ingrédients et sur des techniques dont je me sers encore aujourd'hui.
Les femmes du métier ont un rôle important et d'ailleurs vous leur rendez hommage dans votre livre. On a parlé évidemment de Christine Ferber, la fée des confitures. Il y a également une certaine Suzy Palatin dont vous appréciez particulièrement ça. Et là, il y a la porte du studio qui s'ouvre. Vous le reconnaissez ou pas?
Eh oui, c'est le gâteau de Suzy.
Suzy devait être là, elle a eu un petit problème d'avion. Ah. Elle rentrait de Guadeloupe, malheureusement elle ne peut pas être avec nous, mais elle a missionné ses enfants pour vous façonner ce gâteau au chocolat.
Il vient d'être cuit en plus.
Il vient d'être cuit. Comment vous pourriez le définir?
C'est un gâteau qui est juste très bon. C'est pas de la pâtisserie complexe, mais c'est très très bon. Alors en plus, on peut le customiser. On peut y mettre des noisettes grillées, on peut y mettre des framboises dedans, on peut y mettre des épices à pain d'épices, de la cannelle, enfin ce qu'on veut. Et c'est une très bonne base de gâteau, vite fait. L'ensemble de la recette va prendre 35 minutes, 40 minutes maxi avec la cuisson. C'est simple et bon.
Il faut en révéler le secret quand même. C'est 250, 250, 250.
C'est ça. Il est de façon mémotechnique, on peut retenir les proportions très facilement. 250 grammes de beurre, 250 grammes de chocolat. J'ai pas la recette exacte sous les yeux.
250 grammes de sucre. Moi, je mets un peu moins. Sucre. Moi, je mets 190 grammes de sucre et ça marche très
Mais
très bien.
Mais il est absolument
et hors jet. Un très bon chocolat.
Et un très bon chocolat. La recette figure dans votre livre, Pierre Hermé, Toutes les saveurs de la vie, et figure également sur franceinter.fr, à la page On va déguster. J'avoue avoir eu moi-même beaucoup de succès en réalisant cette recette, vous savez, dans les petites pastilles vidéo recettes sur France Inter, que vous pouvez retrouver également sur notre site. Venons-en à la création, cher Pierre Hermé, puisque vous avez fait clairement avancer la pâtisserie française, même si vous refusez de dire que vous avez réinventé le métier. Citons quelques innovations, la mise en place de collections saisonnières, l'exploration de nouvelles saveurs, et vous vous êtes notamment penché sur les saveurs florales, les saveurs épicées, l'esthétique en rupture avec les codes conventionnels, en faisant notamment travailler des gens du design, de l'art, de l'architecture.
Alors, depuis toujours, effectivement, j'ai aimé confronter mon métier à d'autres disciplines. Le premier a été Yann Pénors, parce que j'avais eu l'idée de faire un gâteau designé par un designer qui sorte des formes que peuvent imaginer les pâtissiers, mais qui aurait l'apparence d'un gâteau. Et quand j'ai été voir Yann Pénors...
On est en quelle année ?
En 92 ou 93. Au départ, il était perplexe, parce qu'il dit « Mais c'est quoi ce hurluberlu ?» Et puis, chemin faisant, je lui ai dit « Je veux faire un gâteau au chocolat et au lait et aux noisettes. » Et puis, moi, j'avais commencé à travailler de mon côté sur un gâteau avec des textures extrêmement élaborées, mais en même temps, un gâteau super simple, parce que chocolat et noisettes, c'est très, très simple. Et puis, un jour, Yann Pénors me fait venir et me fait voir cette forme de part de gâteau.
De part géante.
De part géante de gâteau, avec des petits traits qui identifient les parts. J'ai trouvé ça formidable, parce que c'était vraiment ce dont j'ai rêvé. Ça veut dire quelque chose qui ressemble à un gâteau, mais qui ne soit pas une forme habituelle. Et puis, ensuite, il met une petite boule rouge dessus, et je dis, c'est la cerise sur le gâteau.
Et c'est devenu
le nom. Au départ, Yann Pénors avait pensé à un autre nom, mais ça ne marchait pas bien, c'était le beurre et l'argent du beurre.
À l'époque, vous faisiez ce gâteau pour la Maison Fauchon, qui a été, il faut bien le dire, très sceptique. Et vous leur avez un peu tenu tête. Vous avez eu raison, car ce fut pour la cerise sur le gâteau un succès foudroyant.
Ah, ça fut un succès énorme. Quand j'ai fait voir ça à la propriétaire de l'époque, elle m'a dit « Mais vous êtes fou, quoi ?» Je dis « Écoutez, on peut essayer quelque chose, on le met en vitrine pour voir comment va être la réaction des passants. » Et on l'a mis en vitrine et les gens s'arrêtaient et regardaient. Et c'est un gâteau que je fais toujours dans la maison Pierre Hermé sur commande. Parce que c'est un très beau gâteau et un très bon gâteau.
Absolument, noisette du Piémont, chocolat Givara de la maison
Valrhona. À l'époque, c'était Givara, maintenant c'est un chocolat que j'ai fait faire pour nous spécialement.
Un peu plus amer ?
Parce qu'il est un peu plus amer, Givara est aux alentours de 40%. Aujourd'hui, c'est un chocolat au lait à 46% et je réfléchis même à aller un peu plus loin.
Vous êtes également le créateur de ce que vous appelez un peu des fétiches ou des équations de goût. Et ça, c'est vraiment l'apport de Pierre Hermé dans l'histoire moderne de la pâtisserie française. Alors, il y a bien sûr cette équation fabuleuse connue dans le monde entier. Rose plus framboise plus litchi égale...
Ispahan.
Ispahan.
Ah, c'est magnifique. On connaît un peu ces classiques autour du plateau. Oui. Mais alors, ce qu'il y a de curieux, l'Ispahan, évidemment, il est ici, on va le déguster. On l'a en version macaron, vous l'avez décliné même en cake et dans toutes les créations que vous faites. Il y a, et ça on l'apprend en lisant votre livre, une création que vous mettez gustativement au-dessus de l'Ispahan, dont vous êtes particulièrement fier, qui n'a pas encore la notoriété de l'Ispahan. Moi, j'avoue être assez d'accord avec vous, c'est l'Estella.
Estella, oui. En fait, l'Ispahan... s'est imposé sur une période de temps de 15 ans. Au début, c'était les gens le regardaient avec curiosité, certains osaient l'acheter, mais ils n'étaient pas nombreux. Mais j'ai toujours eu la sensation que c'était un accord de saveurs vraiment, vraiment intéressant et bon.
D'autant qu'on n'avait pas vu beaucoup l'usage de la rose dans la pâtisserie jusqu'à maintenant.
Ailleurs que dans la pâtisserie marocaine, orientale.
Et bulgare. Ouais. J'avais découvert le goût de la rose par la cuisine bulgare. Et aujourd'hui, il y a un gâteau que j'ai travaillé sur 2-3 ans, là, ces dernières années, qui s'appelle Estella, et qui est un gâteau avec un sablé au blé noir, un praliné au pignon de cèdre, avec une gelée d'herbe, avec des la menthe, de
la sauge.
La sauge, de la livèche et de la coriandre, à part égale. Et puis, une crème à l'infusion de bourgeons et épines de pin. Alors, ouais. Ça paraît comme ça complexe, mais quand on le mange, c'est une évidence. Ouais. C'est juste un très très bon gâteau.
Incroyable. Vous parlez de sablé blé noir, il s'agit bien de sarrasin. Hein. Voilà. C'est l'autre nom de...
Sablé au sarrasin.
D'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle que vous racontez dans le livre, d'un semi-échec avec le sarrasin, d'une présentation où il a fallu retirer in extremis un ratage en quelque sorte.
En fait, c'était pas un ratage, mais c'était une conséquence qu'on n'avait pas anticipée. On a fait des galettes au blé noir.
Ah, c'est les fameuses galettes, d'accord.
Oui, on les a fabriquées, on les a stockées en froid négatif, et puis on les a cuits, et là, en les cuisant, il se dégageait des odeurs de fromage.
Quelqu'un vient vous voir en vous disant il y a un problème sur vos galettes.
C'est votre femme.
Voilà, c'est Valérie, disant, qui a eu cette présence d'esprit en disant mais ta galette, elle est bizarre. Et on les a retirées, on les a pas fait goûter. Et on a remis en cause tous les ingrédients. Et c'est vraiment le blé noir qui, lorsqu'on le garde dans un milieu gras et humide, se transforme.
Et ben pas voilà. De problème de ce genre avec les Stella.
Mais vous n'êtes pas fâché pour autant avec le sarrasin. La preuve, les Stella est un gâteau exceptionnel, une création magnifique. Pierre Hermé, on vous a réservé une petite surprise. Ah. Mais il va falloir attendre. La petite surprise, c'est juste après ça.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences? Doit-on croire en cette chance? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Et sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent, et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis, sont devenus qui? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris?
Baptiste W. Hamon dans On va déguster avec le titre Jusqu'à la lumière. Tiens, tiens, on entend du bruit, on a peut-être de la visite dans notre studio.
On va déguster. Sur France Inter.
Ah ça c'est une surprise. Nicolas Stromboni.
Eh ben faites le métier à ma place, présentez-le Pierre Hamé.
Mon ami est caviste, tête chercheuse du vin en Corse et ailleurs, et en Champagne aussi, mais pas que.
On connaît bien Nicolas Stromboni, en effet, on a même eu l'occasion de faire des émissions sur la cuisine ajaccienne avec lui. C'est, faut-il le rappeler, l'un des spécialistes du terroir corse, fondateur du chemin des vignobles à Ajaccio, désigné meilleur caviste de France en 2011 par la revue du vin de France, avec peut-être bien Nicolas Stromboni, la plus ou une des plus belles collections de champagne hein, dans votre cave.
Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, on défend assez curieusement, effectivement, comme tu l'as souligné dans ton livre... Le champagne, alors c'est pas tout à fait fréquent en Corse, mais en même temps c'est une région qui a un peu les mêmes finalement les mêmes ressorts que la Corse. C'est une région qu'on connaît pas si bien et qui a beaucoup beaucoup de choses à dire.
À quand votre amitié forte et intense avec Pierre Hermé remonte-t-elle?
Depuis toujours.
D'accord, ça c'est précis.
Nicolas était là le jour où j'ai rencontré Valérie.
Évidemment, votre femme d'origine corse, donc oui. Vous êtes amoureux d'une Corse. Et amoureux de la Corse, Pierre Hermé.
J'aime beaucoup la Corse et je suis amoureux fou de Valérie. Donc l'un ne va pas sans l'autre et je suis très content de passer du temps en Corse en été, mais aussi en hiver, au printemps, en automne. Enfin, c'est ma seconde région.
Vous avez
après
rencontré Valérie en 2013. Elle est devenue votre femme en 2017. Vous l'avez rencontrée par l'intermédiaire du festival Arte Guste qu'elle organise, hein, c'est ça? Et vous étiez invité du festival et c'est là où...
C'est le parrain du festival. Voilà, c'est comme ça ce jour-là que s'est passé le coup de cœur.
Et vous vous êtes rencontré avec Nicolas Stromboni, avec...
Ce soir-là, il a bien les pieds sur terre, mais il est parfois un peu rêveur. Alors j'ai dit, il est quand même particulièrement rêveur ce soir-là. Alors moi, je lui ai goûté plein de choses, des huiles essentielles, notamment on a parlé d'immortels.
Ah,
j'ai vu arriver un Pierre Hermé totalement dans son coup de foudre, et c'était hyper émouvant d'être là ce soir-là.
Vous avez échangé sur le terroir corse, je crois que Nicolas Stromboni, Pierre, a été pour vous un guide essentiel, hein?
Oui, alors j'ai goûté les premiers vins corses par Antoine Arène, mais après Nicolas m'a beaucoup appris, il m'a fait découvrir, il m'a fait rencontrer les vignerons, il m'a révélé la qualité et la profondeur des vins corses, et aujourd'hui je les aime beaucoup, je les fais goûter à mes amis, je les fais partager, enfin, aujourd'hui j'aime beaucoup les vins corses et j'en bois souvent.
Citons quelques vins que vous lui avez fait découvrir. Corse,
on est quand même heureux, fiers d'avoir un ambassadeur comme Pierre Hermé au service des vins corses, parce que c'est un promoteur infatigable, et comme il est passionné et passionnant, eh bien, le travail est pour nous merveilleux.
Alors,
dans les cuvées, domaine de Vacelli, forcément,
les Courrèges.
Domaine Zuria, nouveau venu à Bonifacio, domaine Abatucci,
Yves Canarelli,
Claude Vintour, et puis tant d'autres, et puis tous ceux encore à venir, puisque la Corse...
Il y en a encore plein à découvrir, et puis comment le domaine Saparal, où tu m'as emmené l'année dernière.
Nicolas Stromboni, je crois que vous avez apporté une petite surprise à Pierre, vous avez une glacière à vos côtés.
Oui. Alors Pierre disait dans son livre, quand il cueillait les myrtilles avec Mamie Jacques, qu'il n'avait jamais osé... faire de tarte à la myrtille.
C'est ça, nous en avons parlé.
Absolument. Et tu disais ton amour pour la Corse, et tu disais ta conception particulière de la pâtisserie à travers les fétiches. Donc en mettant tout ça dans la réflexion, je me suis dit que des produits qui poussaient dans le même endroit, alors nous avons de la mûre sauvage, la mûre de ronce, et des pommes d'une variété endémique, et la mûre et ses pommes doivent pousser à 5 mètres les unes des autres. Donc je me suis dit que peut-être, puisque si la myrtille, pour des raisons qui te sont personnelles, restera dans tes tiroirs de ta mémoire de cœur, peut-être que les mûres de ronces de Corse et de la pomme, ça fera peut-être quelque chose.
Et c'est une pomme à cuire ou à croquer, ou les deux?
Écoute, j'en sais fichtrement rien, mais je peux te dire, c'est qu'elles poussent l'une à côté de l'autre, elles se sentent bien, tu vois, elles sont belles, elles sont jaunes, elles sont vertes, elles sont dorées, alors elles sont bio, elles sont un peu piquées.
Où pousse-t-elle précisément, Nicolas ?
Alors, elle pousse en plein milieu de la Corse, à 1000 mètres d'altitude, au-dessus d'un village qui s'appelle Olen. On dit d'un mûrier de roncier qu'il existe des centaines de variétés et de goûts différents sur un même roncier. Et quand on a trouvé sa souche, voilà, il faut la garder aussi précieusement qu'un endroit où l'on cueillerait des cèpes et des morilles.
Les mûres sont exceptionnellement bonnes. Hein. Une amertume, une profondeur de goût qu'on ne trouve pas sur des mûres cultivées. Il y a un peu moins d'acidité que sur des mûres cultivées, mais qu'est-ce que c'est bon ?
Vous avez déjà travaillé la mûre, Pierre Hermé ?
Très peu. Presque pas. Toujours pour les mêmes raisons.
Bon.
De la difficulté de trouver une certaine quantité de mûres de cette qualité.
Bon, ça tombe bien parce qu'on en a des tonnes en Corse. qu'on serait très très heureux que tu sois notre ambassadeur des mûres aussi après le raisin. Ça nous irait assez bien.
Piste de création possible, sachant que de la Corse, vous aimez le citron. De la Corse, vous aimez le cédrat. Vous aimez également, on l'a évoqué, l'immortel. Je crois que c'est Nicolas Stromboni qui vous a fait découvrir cette herbe qui a un peu des effluves épicées, de curry.
La première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Mais tu es sûr que c'est comestible ce truc-là ? Si je travaille l'immortel, je risque pas de tuer mes clients ?» Je lui ai dit « Non, tu peux y aller. »
Alors, le premier qui m'a parlé de l'immortel, c'était Olivier Bossan, parce qu'il est à l'origine de la réintroduction de la culture l'immortel en Corse. Lui m'avait toujours dit que c'était pas comestible, donc je m'y suis jamais frotté, même si j'ai toujours adoré l'odeur de l'immortel. Et Nicolas m'a dit que l'immortel bio était...
On l'a goûté, rappelle-toi, en huile essentielle. De toute façon, ce soir-là, tu étais tellement inavédieux que pour Valéry, qu'on aurait pu lui faire goûter n'importe quoi, et il aurait tout mangé, même l'immortel qui n'était pas comestible. De toute façon, il avait trouvé l'essence de sa vie, donc tout était bien.
Nicolas Stromboni, un petit mot sur une recette qu'adore Pierre Hermé, qui figure dans votre livre référence du pain, du vin, des oursins, aux éditions Marabout. Une recette typiquement corse que Valérie, votre femme Pierre Hermé, vous cuisine régulièrement. Le veau aux olives. Pourquoi vous l'aimez, cette recette ?
C'est une cuisine mijotée, simple, extrêmement lisible, et mais qu'est-ce que c'est bon ! Il y a un jus, on mange avec des pâtes, c'est formidable, j'adore.
Qu'est-ce qu'on met comme beau canon dessus ?
C'est ça.
C'est ça, bah justement, la transition est toute faite vers le vin. Je précise juste que la recette de votre veau aux olives figure dans votre livre, évidemment, Nicolas, mais également sur franceinter.fr à la page On va déguster, et je crois que Pierre Hamé vous l'a piqué, puisqu'on retrouve cette recette dans toutes les saveurs de la vie, vos mémoires, Pierre Hamé, aux éditions Buchet-Chastel. Vous restez avec nous, Nicolas Strombogne, puisque le vin, c'est aussi votre affaire, c'est surtout votre affaire. Et nous avons Antoine Gerbel pour en parler.
On va déguster sur France Inter.
Alors effectivement, il y a de très belles pages dans votre ouvrage, Pierre Hamé, sur le vin. Ça s'appelle « Flacon et émotion ». Et on va parler d'un vin que je vous ai amené. C'est étonnant, j'imaginais pas qu'on allait être si proche de l'émotion. Mais dans cette page, ce qui est c'est très intéressant, c'est que vous rendez hommage à des grands vignerons, notamment vous parlez de Jean-Louis Chave, cet immense vigneron de la montagne de l'Ermitage, et vous dites que ces paroles résonnent en moi avec autant d'écho. C'est sans doute parce que lorsque j'étais tout jeune pâtissier, je ressentais le besoin de mettre des mots sur mes émotions gustatives pour mieux les exprimer autrement qu'en disant « c'est très bon ». Or, si nous apprenions à faire d'excellents gâteaux à l'école de nôtre, nous n'apprenions pas à en parler. Alors justement, j'aimerais, Pierre, que vous nous racontiez votre rapport au vin, parce que, au-delà du goût, ça vous a fait, je pense, énormément évoluer dans votre travail de la pâtisserie.
En fait, j'étais jeune pâtissier chez le nôtre, je m'intéressais déjà au vin et j'avais envie d'en connaître un peu plus. Donc, avec un ami, nous nous sommes inscrits à des cours du soir de dégustation. Et là, pour moi, ça a été une vraie révélation, parce que à l'époque, c'est une institution qui s'appelait l'Académie des Vins.
Steven Spurrier.
Et j'ai suivi plusieurs cycles de cours du soir. Et l'apprentissage du vin m'a permis de mettre des mots sur des émotions, sur des sensations. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ma capacité à déguster, d'aller chercher le vocabulaire pour qualifier ce que je ressentais. Et donc, pour moi, le vin a été essentiel dans mon parcours de pâtissier.
C'est très émouvant, vous parlez de rencontres, il y a cette phrase d'ailleurs qui commence le chapitre « Peu de choses me rendent plus heureux que d'aller visiter des vignerons sur leur terre ». Parce qu'il y a ce lien, dans cette émission on parle souvent du vin, on parle de dégustation, mais il faut rappeler que c'est bien évidemment ce rapport avec le vigneron qui vous a... Alors le premier vigneron, je crois que je vous ai déjà posé cette question, vous avez un souvenir, je crois que c'est familial, parce qu'il faut vous rattacher votre parcours d'amateur de vin avec l'Alsace.
Oui, un des premiers vignerons dont que je suis allé voir, c'est quelqu'un qui est lointain parent, qui s'appelle Marcel Mühlenbach, en Alsace. Et donc j'ai dégusté beaucoup de vin chez Marcel, et j'ai beaucoup appris aussi par lui dans l'échange. Et je crois que, en fait, si j'aime autant le vin, si c'est une de mes passions, c'est aussi pour ces rencontres. On parlait tout à l'heure de rencontres avec des designers, avec des artistes, mais le monde du vin, pour moi, c'est un univers très riche, avec des gens formidables, qui savent parler de leurs produits, qui mettent beaucoup d'eux-mêmes dans ce qu'ils font, et pour moi, c'est toujours enrichissant, et dans ma cave, j'ai essentiellement des vins de gens que je connais, que je suis allé rencontrer, et dont je connais bien le vin.
Alors, il faut bien évidemment se plonger dans l'ouvrage pour découvrir tous vos vignerons passionnés. Et alors, je me suis permis d'amener un verre de vin rouge que vous avez dans. Alors, je vais vous donner l'intitulé du vin, parce qu'aujourd'hui, les vignerons se déplacent un petit peu du simple cadre des appellations d'origine en donnant leur lieu. Là, en l'occurrence, c'est un vin de France, donc il a toute liberté. Il s'appelle à fleur de peau. Et à fleur de peau, quand j'ai goûté ce vin il y a quelques temps, j'ai dit un énorme coup de cœur, et quand François Régis me dit, mais quel vin pour tu amener? Je dis, mais j'ai pensé, parce que Fleur de Peau, ça vous va très très bien. On a senti toute l'émotion que vous mettiez dans votre travail. Et là, c'est un garçon qui s'appelle Clotaire Michal. Clotaire Michal, il a travaillé pour un grand vigneron de la vallée du Rhône, qui est Thierry Allemand, dans les vignes. Et voilà, son parcours est intéressant. Juste, il est originaire du nord de la vallée du Rhône, mais il a quitté cette vallée du Rhône. Il faut le dire aussi, c'est parce qu'il en avait marre de cet univers semi-industriel de la sortie de Lyon, vous savez, ce couloir où TGV, ligne haute tension et usine fait que, on peut, même si on est sur les coteaux en travaillant des très très belles vignes sur les appellations comme Saint-Joseph ou Cornas, vous avez peut-être envie de partir. Et il est parti, Michal, il est parti dans le Beaujolais.
Donc là, ce que je suis en train de vous faire goûter, c'est un gamay. C'est un gamay qui a une vigne de plus de 100 ans. Et il a mis du temps, parce qu'il sortait de, bien évidemment de la Syrah de Cornas, aller chercher beaucoup d'extraction. Et il dit, bah, comme je macérais longtemps, je voulais être un peu dans la démonstration. Je pense qu'on a ça aussi dans l'univers peut-être de la pâtisserie, c'est qu'on veut aussi, dans sa jeunesse, un petit peu démontrer des choses et revenir après à des choses plus simples. Qu'est-ce que vous ressentez, Pierre, avec ce vin ?
Alors, c'est un vin qui n'est pas un vin nature, mais qui est un vin sans...
Il est très proche de la mouvance nature, il n'y a pas du tout de soufre dans la vinification.
Moi, je ne l'aurais jamais mis dans le Beaujolais, parce qu'il a une puissance qui est un peu inhabituelle par rapport au Beaujolais, mais c'est très très bon.
Vous aimez Nicolas Stromboni ?
Oui, j'aime beaucoup. Alors, je l'aurais mis, moi, bien plus loin, je l'aurais mis à Chinon, parce que ça me rappelait des aromatiques de Chinon, avec à la fois cette structure, c'est frais, c'est carré, et extrêmement, pour un vin nature, du coup, très pur.
Vous nous rappelez les références de ce vin, Antoine Gerbel ?
Alors, ça s'appelle à fleur de peau, le vigneron s'appelle Clotaire Michal, avec son épouse s'appelle Yuka, et je rajouterais juste, parce que c'est intéressant pour le parcours, c'est un sommelier au départ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé dans la restauration, du côté de Nîmes, et puis qui a basculé dans la viticulture, et on remarquerait qu'un jour, il faudrait peut-être faire une émission sur ces gens qui sont passés de la sommellerie à la production de vin, parce que ce qui compte quand on fait du vin, c'est bien évidemment le goût. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre verre juste à côté ? Mais là, on l'a servi en micro.
Ça brille comme le soleil.
Mais il est terrible parce qu'il a reconnu tout de suite.
Alors, ce qu'on a dans le verre, c'est un Gewürztraminer. Et c'est le vin par lequel j'ai eu l'idée de l'Ispahan. Parce que au départ, je faisais un gâteau qui s'appelait le Paradis, qui était rose framboise. Et en goûtant le Gewürztraminer, je me suis aperçu que le Gewürztraminer avait des arômes de litchi et de rose. Et du coup, j'ai eu l'idée d'associer, quand j'ai créé l'Ispahan, d'associer rose, litchi, framboise.
Et ben voilà, par ce vin, la boucle est bouclée.
Et alors voilà, je me suis permis, je l'ai sorti de ma cave. Alors il a 33 ans, C'est un 1989, c'est une vendange tardive d'une maison que vous connaissez bien, puisque voilà, c'est la
fin de...
Domaine Weinbar. Voilà, et à la grande époque, bien évidemment, des deux sœurs. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui travaille merveilleusement bien. Mais voilà, quand on dit que les grands liquoreux, on a un peu de mal avec l'Alsace, voilà, gardez-les, 33 ans.
Et c'est des grands vins. On fait des très grands vins en Alsace. J'en ai goûté quelques-uns le week-end dernier, notamment un des vins de chez Boxler, qui était délicieux, vraiment.
Nicolas Stromboni, votre passion des vins corses et votre localisation à Ajaccio ne vous empêche pas, au contraire, d'avoir beaucoup de curiosité vers les vins plus lointains.
On partage avec l'Alsace le fait d'avoir tous les sols de France comme eux, et la notion de multicépage, la notion de la découverte, de la recherche permanente. Et à la fois, on est une région mal aimée, comme l'Alsace.
Mais non, qu'est-ce qu'on aime la Corse. Surtout Pierre Armé, moi n'en parlons pas évidemment. Pour conclure, car nous sommes obligés de conclure malheureusement, cher Pierre, ces phrases qui sont peut-être bien parmi les dernières de votre livre. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, un pâtissier épanoui, un entrepreneur serein. Mes luxes sont simples, du bon café, du temps pour moi. Vous en manquez de temps ?
C'est ce qui est le plus difficile à trouver, c'est de garder du temps pour lire, pour faire des choses juste pour soi. C'est ce que je recherche toujours.
Pour nos auditeurs amateurs de macarons, un tout petit mot sur la dernière collection qui est en ce moment dans vos boutiques.
Alors, cette dernière collection s'appelle « Le temps retrouvé ». Et comme disait Stéphane de Grotte, et si Marcel Proust avait écrit « À la recherche du pain perdu
» Excellent.
Et donc, il y a quelques macarons qui rappellent des goûts de l'enfance ou des goûts traditionnels, comme le macaron crêpe Suzette, le macaron rose bonbon, qui est rose, fraise, bonbon, et le macaron à la réglisse.
Toutes ces réminiscences dans mon... Alors ça, le macaron à la réglisse, il ne faut pas y toucher. Non, 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 c'était pour Laurent Thomas, notre réalisatrice amoureuse de la réglisse. Elle attendait ça depuis 3 jours.
Alors, je vais prendre la Suzette alors.
Un immense merci, Pierre Armé, de nous avoir rendu visite.
Merci de m'avoir reçu, et je souhaite autant de plaisir au lecteur que moi j'ai eu à le faire.
Et on en a pris du plaisir à le lire et à le dévorer, ce bouquin, je peux vous l'assurer. Toutes les saveurs de la vie, l'odyssée d'un pâtissier de génie, un livre événement aux éditions Buchet-Chastel. Il faut attendre quelques jours pour se le procurer en librairie. Ça se passera le 6 octobre prochain, la semaine prochaine. Écoutez bien, on va déguster de reste couvert. Savez-vous où ? À Bastia, au festival Artemar, une émission sur la cuisine de Haute-Corse et ses passerelles culturelles et culinaires avec le monde méditerranéen. Notre émission sera enregistrée en public vendredi prochain à la salle des congrès au théâtre municipal de Bastia à partir de 17h30. Venez nombreux. À bientôt Nicolas. À Ajaccio. Et à la prochaine Antoine et Elvira.
Bon dimanche à tous.
Au revoir Pierre.
Bon dimanche à tous.
À dimanche prochain si vous avez encore faim.